Alien et les garçons épisode 20. Bienvenue dans toi mon meilleur.
Bienvenue à bord d'Alien et les garçons. Bonjour tout le monde.
Bonjour Thomas.
Bonjour Thomas.
Bonjour Vic et Florian. Comment vous allez aujourd'hui?
Bah ça va bien. Je t'ai même fait une petite intro en chanson, donc je pense que ça va plutôt bien.
C'est vrai?
Ouais.
Je me rappelle pas que t'aies fait une intro en chanson.
Non, j'ai juste fait bonjour Thomas.
Ah c'était ça.
Okay. Ah sacré, c'est un début de chanson. Quoi.
Ouais, ouais, il y a quelque chose.
Il y a quelques notes, c'est bien.
Ouais, ouais,
et toi Vic, comment ça va?
Ça va très bien, très bien. Content de nous retrouver pour ce nouvel épisode.
Avec une thématique formidable.
Oui.
Quelle est-elle?
Elon Musk.
Thématique Elon Musk. Exactement. Rien que ça. C'est la thématique qui bat les autres thématiques de base, puisque c'est Elon Musk.
Et parce qu'on est fan.
Et parce qu'on est fan et qu'on a un portrait de lui peint chez nous, chacun d'entre nous, qu'on
exactement
a peint nous-mêmes.
Dans la chapelle du château. Un triptyque. Un des triptyques. On a chacun un des triptyques, tu vois. Quoi.
Ouais. C'est une bonne idée.
Ouais.
Et donc cette thématique particulière, un peu étrange, bizarre, mais quand même sympathique, nous a été donnée par Antoine. On dit quoi?
Merci Antoine.
Ouais, j'aime bien.
Non, on l'a fait un petit peu en oui, chant polyphonique.
C'est vrai. Ouais, mais ne demande pas de le refaire.
Non.
C'était formidable. Donc du coup, thématique originale, ça change des mémoires, religions qui sont un petit peu classique. Là, thématique Elon Musk, qu'est-ce que ça vous a inspiré, thématique Elon Musk, Vic?
Ça m'a inspiré une chronique qui va avoir conscience d'être une chronique sur Musk, qui a conscience d'être
d'accord
une chronique sur Musk.
Voilà. Ça se range.
Et est-ce qu'elle s'est écrite toute seule?
C'est à peu de choses près, elle ne s'est jamais écrite en fait, tu vois.
Oh putain, ça m'a l'air d'être encore un truc bien, mais c'est toi qui commence en plus, c'est ça?
Oui, c'est
très bien. On pourra en savoir plus dans quelques secondes du coup. Florian, de quoi parle ta chronique sur Elon Musk?
Moi, je vais vous présenter des pionniers de l'espace.
Elon Musk le premier.
Oui, non mais là, c'est encore, là, je vais vous parler de 150 personnes qui sont pionniers parce qu'ils vont faire pour la première fois quelque chose que d'autres n'ont jamais fait.
Ok, intéressant. Voilà. Mais c'est, ça, c'est un bon teasing, c'est ça qu'on veut. Bah, dans la publicité, on a interrogé une agence de pub pour faire développer un peu
le podcast,
le business et tout
qu'on
ça.
Qu'on n'a pas payé.
Et évidemment, et du coup, il nous a dit qu'il fallait teaser mieux. Et du coup,
alors, on tease. Et la tienne, Thomas.
Ah, la tienne. On va pas te
non, je disais, et la tienne.
Et la tienne.
Et la tienne de
et la tienne de chronique.
Ah, pardon.
Et la tienne de chronique Thomas, et la tienne.
Et on tease, et la tienne, oh, la tienne aussi. Oh.
Ma chronique, moi, ça parle d'Elon Musk aussi, mais je vais parler d'un complot.
C'est un bon point déjà.
Je vais parler d'un complot qui met en scène toutes les entreprises d'Elon Musk et qui est crédible, je crois, et qui est postmoderniste, inspiré de Thomas Pynchon. Donc,
elle est crédible jusqu'au moment du débat, parce que généralement, au moment du débat, que tes chroniques crédibles, et t'arrives et au bout d'un moment, tu fais ah non, mais c'est pas possible.
Bon,
on verra bien. On verra bien.
Pendant que je me lis, pendant que je lis ma chronique, je fais genre qu'est-ce que c'est pas possible, ça n'a aucun sens.
Ouais. Bon, on verra ça. Tu passes juste après. Enfin, juste
je
après moi.
Je passe en deuxième.
Voilà.
Florian passera donc
en troisième,
le meilleur pour la fin, évidemment, avec sa
bah,
chronique
oui,
de l'espace.
Merci,
portrait chinois des lingots.
Allez.
Arrêtons de digresser. Je voudrais vous demander, donc on sait à quoi ça sert, hein, pas besoin de revenir sur le. Hein,
non,
pas ressasser le passé.
Disons que c'est pour apprendre à se connaître.
Exactement, et on aime bien se connaître. Vic, Florian,
oui.
Si vous étiez une heure de la journée.
Une heure de la journée.
Oui, ou de la nuit d'ailleurs.
Une heure de la journée ou de la nuit,
effectivement.
Pas facile.
Est-ce qu'on doit allier ça à un jour spécifique ou c'est juste
non,
une heure de manière générale?
Une heure de la journée en général, parce que qui correspond à quelque chose en toi.
D'accord, d'accord. Moi, j'aime bien.
Oui.
On doit en choisir qu'une seule. De manière générale, j'aime bien les heures qui sont miroirs. Tu vois.
C'est-à-dire.
Genre
15h55,
midi 21.
Ah non, carrément des.
Ouais, oui, carrément des vrais miroirs, tu vois quoi.
Ah des.
C'est 15h, c'est 15h.
Palindrome,
c'est
palindrome de l'heure.
Des palindromes de l'heure, tu vois, 15h51, du coup, tu vois, genre de choses.
Ah, ouais.
Et je pense que du coup, je serais plutôt 21h12.
Pourquoi?
Ah, 21h12.
Oui. C'est pas un palindrome.
Ah si, 21h12.
Si, oui, c'est vrai, c'en est
un. C'est un exact palindrome. Parce que du coup, c'est l'heure où.
Ça marche mieux que.
Que 15h54, par exemple. C'est ce que tu voulais dire?
Ouais, par exemple.
Par exemple. Parce que c'est l'heure où t'as fini ta journée de travail, t'arrives chez toi tranquillement et tout. Et c'est là où on commence notre deuxième journée qui est d'écrire des podcasts.
C'est beau. C'était moi, est-ce que c'est
moi,
une déclaration d'amour à Aline et les garçons?
Pas du tout.
Tant pis. Mais c'était quand même une très bonne réponse.
Oui, j'aime bien. C'est la deuxième partie de journée. Tu vois, c'est là où tu commences vraiment ta journée en finale. Tu vois.
Donc, 21h12, deuxième partie de journée. Ouais. Ouais, en quelque
c'est une réponse anticapitaliste un peu.
C'est vrai.
Bravo. En fait, t'es une sorte d'esclave qui essaye de briser ses chaînes. Depuis le début, je me dis que t'es un esclave qui brise ses chaînes et j'avais pas raison. J'avais raison. Pardon. Ok. Vic
Je réfléchissais un petit peu pendant que Florian parlait. J'ai pas vraiment trouvé. Du coup, je vais faire par élimination.
Oui. Tu vois, alors, 8h01, non. 8h02, non.
Non, non. Entre 2, 3 et 11h, c'est mort parce que je dors. De 3 jusqu'à 8 heures, je dors. Après, j'aimerais bien continuer à dormir, mais c'est mort.
Donc, du coup, c'est déjà empreinte négative.
Non, donc je ne vais pas choisir une heure là-dedans. Non. Après, manger le midi, je ne suis pas fan de l'après-midi non plus.
Ah ouais?
Parce qu'au début, c'est après le repas, j'ai encore envie de dormir. Et puis, Et puis ouais. Non, je suis pas super fan.
Putain, un oiseau de nuit, toi, t'es notre Michou à nous.
Non, j'aurais beaucoup aimé dire ça. J'aurais beaucoup aimé te répondre. Bah, moi, c'est minuit, une heure du matin. Tu vois, avant, j'étais quelqu'un de genre de la nuit, pas mal, et je me couche de plus en plus tôt finalement. Donc, je peux pas non plus te répondre vraiment.
Ça, c'est ma bonne dame. Hein.
Du coup, il me reste plus vraiment beaucoup d'heures, mais je vais taper un peu comme Florian. Je pense que je vais taper vers 21h30 parce que c'est pas encore. C'est, ouais. L'après-midi est fini.
Ouais.
Mm-hmm. La nuit n'a pas commencé. Du coup, ça me
tout est encore possible.
Ça me semble être une bonne heure.
Oui, c'est un peu pour la même raison. J'aime bien, moi. J'aime bien cette période de la journée.
Mais j'aurais adoré être du matin. J'adore être du matin. En vacances, j'essaye de l'être un peu, de me réveiller, tu vois, d'aller hop, chercher la petite...
J'aime bien l'idée.
J'adore l'idée, mais je ne suis pas quelqu'un. J'aimerais beaucoup l'être, mais je ne suis pas quelqu'un.
Les gens ne connaissent pas ton métier, mais j'aime beaucoup l'idée de te dire qu'en vacances, essayer de te lever tôt, alors que quand tu taffes, bah les couilles.
Moi, j'ai failli dire 9h, parce que 9h, c'est l'heure à laquelle je me lève tous les jours. Peu importe si je suis en vacances, si je suis en week-end ou si je suis au travail, etc.
C'est, je me lève
à 9h. C'est mon heure. Mais à la fois, ça m'émeut pas plus que ça et tout. C'est juste une heure fonctionnelle, tu vois. Donc,
justement, moi, pour transition, moi, je suis 8h59.
8h59
parce que c'est mon heure à moi, quoi.
C'est ton heure à toi,
l'heure de réveil.
59.
Non, je me réveille en général parce que pour le coup, moi, je suis devenu du matin par la force des choses. Je me lève entre, on va dire, 7h30, 8h30, ou un peu tout le temps, peu importe. Et même si je mets pas de réveil. Et du coup, 8h59, c'est le moment où t'es réveillé, t'es frais. Et justement, comme vous disiez, tout est possible à cette heure-ci, à 21h, etc. Tout est possible à 8h59. C'est le moment. Il n'est pas encore 9h, la journée commence, qu'est-ce que je vais te faire aujourd'hui, tu vois.
Ouais, j'aime bien cette idée.
Mais voilà. En gros, en fait, on est des gens, à notre manière, on est des gens de l'avenir. Mais moi, je veux l'avenir le matin et vous le soir.
Ouais, non, c'est vrai.
Très intéressant.
Chacun sa façon de faire.
Formidable.
Je pense qu'Elon Musk, pour revenir à notre sujet principal, aurait dit genre 5h30. Parce que je crois que c'est le genre de mec à se lever à dormir seulement 4 heures.
Lui, dormir, c'est une perte de temps.
Hein. Bien sûr.
Et puis il doit faire du sommeil polyphasique ou je sais pas quoi, je sais plus comment on appelle ça, le truc où tu dors 20 minutes 4 fois par jour, puis après tu sautes à cloche-pied.
C'est de la power nap de night.
Power nap de ouf. Je pense qu'il est comme ça. On va y revenir tout à l'heure sur notre ami Elon. Est-ce qu'on est content?
Oui.
Très content.
Et alors on va pouvoir attaquer tout de suite la première chronique.
Exactement.
La chronique de Vic.
Eh bien, je suis content et je suis prêt à vous faire ma chronique.
Processus et protocole.
Nous sommes au début de l'année 2019. Antoine C. écoute un épisode d'Alien et les garçons. Pendant l'épisode, l'un des chroniqueurs propose aux auditeurs d'envoyer des suggestions de thèmes. Antoine C. se saisit de l'opportunité. Il a une idée. Le 15 avril 2019, à 17h25, il envoie un courrier électronique à alienetlesgarçons@gmail.com. Son email met en œuvre le protocole SMTP, voyageant sur plusieurs serveurs successifs à travers le monde. D'ordinateur en ordinateur, l'email est acheminé vers le serveur d'Alien et les garçons. Dans la même minute, trois notifications sont envoyées sur les téléphones des trois chroniqueurs, leur signalant la réception du message d'Antoine C. Le protocole IMAP leur permet de consulter le contenu du message. L'objet est le suivant. Bravo, continuez ainsi. Le contenu est lui articulé autour des félicitations d'Antoine C. suite, on l'imagine, à ses écoutes d'Alien et les garçons. À la lecture du texte, les cerveaux des chroniqueurs entament une suite de réactions chimiques ultra rapides qui aboutissent en la sécrétion d'une hormone, la dopamine, provoquant chez eux une sensation de satisfaction. Quelques minutes après la lecture, un message est posté sur le canal social de la plateforme de communication collaborative Slack, que les chroniqueurs utilisent pour s'organiser. Le message propose de s'attarder sur la fin de l'email qu'ils viennent de recevoir. Dans cette partie de l'email, Antoine C. propose son thème. Il s'agit d'Elon Musk. Antoine C. imagine un monde, je cite, 100% Musk, où SpaceX serait la norme en termes de voyages planétaires et interplanétaires, et dans lequel Tesla représenterait 90% des véhicules en circulation. Fin de citation. Les chroniqueurs décident de traiter le thème d'Antoine C. dès le soir du 15 avril 2019, aux alentours de 20h. L'épisode est inscrit le lendemain dans le calendrier partagé Google dédié au podcast. Ce sera l'épisode 20. La date d'enregistrement est programmée au lundi 3 juin 2019. Nous sommes le lundi 3 juin 2019 et il est 16h38, soit 48 jours, 22 heures et 35 minutes après l'envoi de l'email d'Antoine C. Nous sommes donc le soir de l'enregistrement de l'épisode 100% Musk, réclamé par notre auditeur. Vous êtes content de vos chroniques? Vous pensez qu'Antoine C. va les aimer? C'est une vraie question.
Ouais, on doit répondre. Ouais, qu'est-ce que c'est que cette chronique? Oui, j'espère qu'il va bien aimer.
Ouais. Toi,
oui, moi je pense. Ouais.
Ok.
Sûr de lui, le gars.
Pour les besoins de la mienne, je dois remonter le temps une nouvelle fois, au moment exact où j'ai commencé à y réfléchir. Flashback. Nous sommes lundi 27 mai 2019, il y a 7 jours en partant d'aujourd'hui. Il est environ 20h30, je suis dans le métro parisien. Mes yeux sont fermés, mais mon cerveau, lui, est en plein processus créatif. À ce moment précis, un électroencéphalogramme montrerait que mon gyrus temporal supérieur droit, la partie de mon cerveau qui permet de rassembler des informations éloignées, travaille de concert avec l'hémisphère gauche de mon cortex cérébral, afin de tenter différentes associations neuronales dont certaines pourraient donner lieu à une idée. En bref, je cherche une piste pour ma chronique sur Musk. Elon Musk, un monde Elon Musk. Que pourrais-je faire d'original et d'inattendu sur Elon Musk ? Musk, Tesla, SpaceX, SpaceX l'espace, Tesla la voiture, j'ai une idée. Je sais que Musk a envoyé une Tesla dans l'espace. Et si j'imaginais le futur de cette voiture ? Et si cette voiture était la première chose que rencontrait une civilisation extraterrestre ? Cela pourrait faire une bonne chronique. Courte, drôle, légère. Une bonne idée, je crois. Je pourrais faire comme dans le film « Les dieux sont tombés sur la tête », dans lequel une bouteille de coca jetée d'un avion devient le dieu d'une tribu et sème la discorde en son sein. Oui, la voiture de Musk pourrait être considérée de la même manière, devenir une sorte d'objet divin pour des extraterrestres moins avancés que nous sur le plan technologique. Oui, peut-être même que ce peuple pourrait... Attendez, est-ce vraiment ce dont je veux vous parler aujourd'hui ? Une chronique sur Musk doit-elle être une chronique classique ? Je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Je crois qu'une chronique sur Musk doit avoir conscience d'être une chronique sur Musk. C'est décidé, je ne vais pas vous lire aujourd'hui ma chronique sur un monde inspiré par Elon Musk. Non, je vais vous décrire le processus qui se serait déroulé si je l'avais fait. Ce processus comprend 6 phases.
Phase 1.
Au cours de la première phase, je dois écrire, sous une forme cohérente, un texte qui traduit mon idée. Cela passe par plusieurs essais, sur un carnet d'abord, puis sur Google Doc. J'associe des lettres pour créer des mots que je connais, puis les assemble pour former des paragraphes que j'imagine refléter au mieux l'idée à faire passer. Avec pertinence, avec goût. Quelque chose dans les standards de ce que nous avons su mettre en œuvre au fil des épisodes, à travers des chroniques comme celle de Thomas et son Terminal des Nations, ou encore celle de Florian et les mondes multiples de Hagen. Je dois écrire. J'écris et réécris. Introduction, développement, chute. Je le prononce à voix haute, je l'affine, j'y mets un point final.
Phase 2.
La phase 2 est la phase orale. Je dois lire mon texte. Elle se déroule aujourd'hui. Elle se déroule en ce moment même. Je suis en train de lire 7 phrases précisément, et là, je mets une virgule ici, et ici, puis un point là. Je parle dans un micro avec le ton que j'estime être le plus correct et le plus à même de vous faire ressentir l'idée. Je lance les différents sound design que j'ai sélectionnés pour appuyer mon texte sans le cannibaliser. Le tout forme un ensemble que j'espère cohérent. Mais cohérent ou non, l'ensemble est enregistré dans l'ordinateur de Thomas sous la forme d'un contenu audio numérique. Il est sauvegardé avec le reste des chroniques et il est déjà temps de passer à la suite.
Phase 3.
La semaine qui suit, le contenu audio numérique constitué par nos différentes chroniques est monté dans un logiciel. Pour ce faire, Thomas met en œuvre des connaissances acquises au fur et à mesure des épisodes. Son but ? Garder le naturel de nos différentes prises son en supprimant simplement les éléments parasites survenus au cours de l'enregistrement. Il monte et remonte jusqu'à l'édition d'un épisode d'environ une heure. C'est sur une combinaison des plateformes Slack et WeTransfer que naissent par la suite plusieurs allers-retours entre nous. À la manière d'une navette, spatiale et parlementaire, nous validons ensemble un montage pour l'épisode, puis un titre, une description et une vignette d'illustration. Il est temps de le diffuser.
Phase 4.
L'épisode est uploadé sur Ocha, notre plateforme d'hébergement. Il est le même jour envoyé à notre partenaire Uzbek Erika. Florian met en ligne. Comme une branche tombée dans une rivière, l'épisode rejoint alors notre flux RSS. Et il est envoyé sur Apple Podcast et à tous les récepteurs abonnés à ce flux. Cela se répand sur la nébuleuse Internet à très haute vitesse, jusqu'à une petite notification qui s'affiche sur les différents smartphones de nos abonnés, dont celui d'Antoine C, à l'origine du processus susdécrit.
Phase 5.
C'est l'heure de l'écoute. Antoine C clique. L'épisode 20 est émis par le système audio de son téléphone. En ce moment même, il entend cette chronique. Le son de cette phrase passe à travers le fil de son casque jusqu'à ses oreilles. Il flotte dans l'air et pénètre dans son oreille externe qui collecte, amplifie et envoie cette chronique sous forme de vibrations dans son conduit auditif au niveau de son oreille moyenne et en particulier de son tympan. Les vibrations aériennes sont alors transformées en vibrations solidiennes puis transmises à son oreille interne. Cette dernière transforme les vibrations en signal nerveux interprétable par son cerveau qui doit maintenant décrypter ma chronique.
Phase 6.
Le cerveau d'Antoine C. traite le signal nerveux. Il analyse les paragraphes, qu'il redécoupe en mots et en sonorités connues auxquelles il attribue du sens. C'est l'heure de vérité pour moi. Quelle est l'hormone qui sera sécrétée par son cerveau? Est-ce celle du plaisir? Vais-je réussir le but que je me suis fixé? Ou au contraire, il n'appréciera pas ma prose? Peu importe. Ce qui importe, c'est le temps qu'il a fallu à Antoine C. et à moi, deux êtres humains, pour communiquer. Et selon Elon Musk, ce temps est vraisemblablement bien trop long. De l'envie d'Antoine C. d'entendre une chronique articulée autour de son thème, au moment exact où son cerveau peut profiter de cette chronique, il s'est passé plusieurs jours. Beaucoup trop, selon Elon. Lorsqu'il s'en est rendu compte, il a décidé de créer la société Neuralink. Nous sommes le 17 décembre 2049, et Elon Musk lance la nouvelle version de son casque Neuralink. L'idée, l'interface cerveau-machine. Un casque qui, comme un lien neuronal entre le cerveau et l'ordinateur, prend à revers toutes les étapes de communication du langage pour les bypasser et transmettre notre pensée de manière précise, fulgurante et sans utiliser la parole. Deux mois plus tard, le 18 février 2050, Lana, la fille d'Antoine C., écoute un épisode d'Alien et les garçons, ou plutôt ressent un épisode à travers son casque Neuralink relié au réseau Osha Emotions. Elle est dans son salon. Elle rit à une blague de Joseph, le fils de Florian, devenu chroniqueur de l'émission avec deux amis à lui. Suite à la blague de Joseph, Lana développe une idée de chronique. Elle transmet son idée via le protocole Neuracast. Dans la même milliseconde, Joseph ressent l'idée, développe une chronique, puis la fait ressentir à son tour à Lana quelques instants plus tard. Elle a les yeux fermés, elle apprécie. Le processus a pris 1 seconde et 13 centièmes. C'était l'épisode 8930, et il est déjà temps de passer au suivant.
Waouh, c'est complètement méta tout ce que tu viens de nous faire là.
Ouais. Moi j'ai vomi.
C'est les montagnes russes et du coup t'as vomi.
C'était trop méta pour moi. En fait au début je pensais bien saisir le truc et à la fin tu nous as pas vraiment perturbé. Et du coup ce que j'ai apprécié moi, c'est que c'est la première chronique qui met en scène un auditeur d'Alien et les garçons.
C'est vrai.
Oui, j'espère qu'il
peut être fier. Il peut être fier.
Ouais. Appréciera.
C'est formidable.
J'aimerais quand même noter que tout ce que tu as dit était vrai sur le processus de fabrication d'Alien et les garçons, etc. Et tout. Ouais. À tel point que les auditeurs ne s'en doutent pas, mais ce que tu viens de faire en termes de montage, ça va être un bordel pas possible parce qu'il va devoir tout remettre dans le logiciel, etc. Il pourra pas reprendre exactement la piste, mais c'est pas grave. Ça, les auditeurs s'en foutent. Ce qui compte, c'est la qualité.
Ce qui compte, la qualité avant tout.
Et donc, tu disais la vérité sur presque tout, à part.
J'ai senti que t'as vérifié, t'étais avec ton téléphone là.
Non, à part sur le fait, vraiment, t'as écrit cette chronique il y a 7 jours.
quand j'ai eu l'idée, ouais.
D'accord, ok.
Ah ouais,
c'est bien, ça veut dire que tu l'as commencé il y a longtemps.
J'ai cherché l'idée il y a 7 jours à peu près.
Ouais. Ouais. Ça te change, d'habitude tu fais ça au dernier moment.
C'est vrai que c'était pas pile il y a 7 jours, c'était pour les besoins de. Enfin, c'était pour ça coulait mieux de dire il y a 7 jours.
D'accord, ok. Ouais.
Mais dans l'idée, c'était à peu près ça. En fait, j'hésitais entre une chronique sur Neuralink, enfin, ouais. Sur l'avenir de Neuralink et sur la chronique dont je parlais au début.
Mm-hmm.
Alors, vraiment, j'ai cette idée-là où je me disais ça pourrait être marrant qu'une civilisation extraterrestre tombe sur cette voiture et soit là, genre qu'est-ce que c'est
que c'était rigolo aussi comme idée.
Ouais. Alors, c'est très rigolo parce que justement, effectivement, très bien cette idée parce que j'ai failli la faire. Et du coup, j'ai réutilisé un petit élément de ce que j'avais commencé à écrire sur ça pour ma chronique à venir dans cet épisode.
Tu nous teases.
Je vous tease la voiture. Au maximum. Ouais.
Ouais.
Et ouais. Ouais, donc du coup, en effet, c'était sacrément méta.
Ouais.
Et en fait, ça m'a rappelé, en effet, on s'en parlait un peu la dernière fois de David Foster Wallace.
Mm-hmm.
Et il décrivait le postmodernisme comme étant le texte conscient de lui-même. Je pense qu'on ne peut pas faire plus modernisme.
Ouais. Et mais du coup, ça, c'était pour la forme. Après, dans le fond, ce que je voulais, c'était un petit peu ce qui est à la base de Neuralink. C'était, ouais. Il se dit qu'en fait, toutes les communications entre êtres humains sont, c'est long.
Ouais.
Parce que le temps que je cherche mes mots, que je parle, que ça arrive ton oreille, que tu analyses, que tu me répondes, etc. Tout ça est trop lent. Et il y a un deuxième truc aussi de Neuralink que moi, je pouvais pas traiter parce que je pouvais pas tout traiter, mais qui est la dégradation du message. Mm-hmm. Où en fait, j'essaie de vous faire ressentir quelque chose. Là, par exemple, en vous expliquant
La parole dégrade.
La parole dégrade parce que j'arrive pas bien à vous expliquer. Ou si, par exemple, demain, je vais voir un film d'horreur, vous allez me dire alors c'était bien, je vais te dire bah oui, ça faisait vraiment très peur, j'ai eu des frissons, mais jamais je rêverais à vous faire ressentir la vraie émotion que j'ai eue à ce moment-là. Et du coup, ça c'est le deuxième truc, et du coup, lui, Neuralink est la réponse à ça pour essayer que pour permettre aux êtres humains, grâce à l'ordinateur, de communiquer sans la parole et de manière très précise et très rapide.
Ça, c'est ce qu'il veut vraiment faire ?
C'est le but de Neuralink. Ouais. Après, c'est très secret. C'était le but annoncé à la base.
Oui, parce qu'on sait pas trop de quoi il parle. Voilà. Je me suis un peu renseigné. Du coup, c'est un peu obscur Neuralink.
À la fois, la parole et la communication dégrade la pensée, certes, mais elle l'embellit aussi d'une certaine manière. De prendre ton temps.
Quel poète.
Non, parce que là, par exemple, mais ça marche bien pour envoyer des textos et tout, ou pour faire ressentir l'émotion que t'as eue en matant un film d'horreur, par exemple. Je suis d'accord complètement. Mais en ce qui concerne l'exemple précis que t'as mis dans ta chronique. On a besoin de temps pour penser à la chronique, à un sujet. On a besoin de choisir les bons mots, de mettre bien l'emphase sur tel ou tel truc.
Ça peut pas être direct. Mais ça trahit. Oui. C'est ça qu'il veut dire, je pense. Ça peut être très beau, mais ça trahit la sensation, forcément.
Est-ce que c'est pas un peu dommage, du coup, de perdre ça ? De perdre
C'est ça. C'est comme dans tous les films où il y a des trucs supérieurs qui arrivent et qui machin. Il y a toujours des gens qui disent oui, mais l'humain est beau dans ses imperfections. Et voilà, bien sûr, ouais, t'as raison, en quelque sorte, il n'y a pas vraiment de vérité.
Si ça continue comme ça, on va faire l'amour en se connectant les doigts comme
dans Demolition Man.
Là, pour le coup, ça n'a rien à voir.
Ouais, je crois.
Ok, c'est dans Demolition Man.
Mais là, pour le coup, ça n'a rien à voir. C'est vraiment juste sur la communication. Mm-hmm. Si Neuralink vous intéresse, pour poursuivre ça, allez voir un article d'un site internet qui s'appelle Wait But Why, en tout attaché, et qui est un excellent article qui met une semaine à lire, ce qui est très long. Et qui décrit tout ça.
Avec Neuralink, ça mettrait
Alors qu'avec Neuralink, il serait de se connecter. Voilà.
Ça serait bien plus simple. Je crois qu'on a bouclé le truc, hein, ça y est. Hein.
Super. Ouais. Après, effectivement, là, pour la chronique, nous, c'est sympa d'attendre un petit peu tout, de chercher son truc.
Oui.
Mais tu vois, il y aurait peut-être plus de force dans le truc. Peut-être que Alien et les garçons, épisode 8930, sera bien plus fort que cet épisode.
En tout cas, j'aime l'idée que le fils de Florian...
Mon
papa s'appelle Joseph en plus, donc tout est cohérent. Ça n'a aucun rapport en plus. Cohérent, rien du tout.
Non, mais tu t'es dit, après autant de transparence, tu voulais nous donner le prénom de ton père.
Oui, je sais pas. Parce que je me sens bien avec vous, avec les auditeurs.
Je comprends.
Et ouais, du coup, j'aime beaucoup l'idée que ce soit ton fils, mais pas les nôtres, parce que nous, on sait pas.
À la base, pour te dire, j'avais écrit Joseph, le fils de Florian qui a repris le podcast après le décès de son père dans. Je sais plus ce que j'avais écrit, mais j'avais écrit une longue phrase. Comment je t'avais fait mourir ?
Comment je t'avais fait mourir ?
Mourir moi seulement, tout seul ?
Oui, bah là, pour les besoins du texte, c'était que toi.
Mais du coup, vous étiez encore vivant en fait ?
Nous, on n'était pas évoqués.
Ce qui répond à ta question.
Non, mais on n'était pas évoqués. Et du coup, je l'ai retiré parce que ça allait pas vraiment droit au but.
Oui.
Mais même si ça me faisait. Je sais plus ce que j'avais trouvé. Mais ça me faisait.
Tu voulais surtout tuer Florian, quoi, c'est ça, c'était l'idée.
Bon, il a été choisi au hasard.
Très bien.
La sélection naturelle, je vais te dire.
Donc voilà.
Est-ce que vous voulez passer à la chronique suivante ?
Et oui,
bah, tout à fait.
Et bah, c'est super, c'est la mienne, ça tombe bien.
La fusée qui pleure.
La tête dans la faïence, Archie essaie d'essuyer le dégueulis qui coule sur sa joue sans tacher son costume flambant neuf de chez Brooks Brothers. Il a toujours eu un caractère anxieux, Archie. Déjà à l'école, quand il vivait encore chez sa mère dans le South Dakota, il avait tendance à rendre son petit déjeuner sur les copies des tests distribués par ses professeurs. Rien d'étonnant, donc, que pour son premier jour de stage chez SpaceX, il se sente un poil nauséeux. De retour dans l'open space, Archie peut enfin se mettre au travail. Son chef, Norman McTitania, l'a chargé de trier les archives de la société. Une tâche de stagiaire, donc. Mais Archie n'a pas tout à fait compris la nomenclature demandée. Et il n'a bien entendu pas osé l'avouer, impressionné par McTitania et ses 220 kilos accumulés au fil de repas à base de triple dose de plats lyophilisés d'astronautes. Alors, tous les jours, Archie se tient sur sa chaise, raide comme une fusée, face à des piles de documents à trier d'une manière ou d'une autre. Les premières semaines de son stage se déroulent dans la solitude, ses uniques compagnons étant ses fameux documents et son Xanax qui épargne à ses collègues le spectacle d'une crise d'angoisse dès 9h le matin. C'est dans ses archives à trier qu'Archie tombe pour la première fois sur des circulaires mentionnant le mystérieux projet Janus. Les messages cryptiques auxquels il est confronté laissent supposer que SpaceX n'est qu'une couverture pour quelque chose de bien plus déconcertant. Quelque chose de peut-être religieux, de peut-être sectaire, et sûrement de complètement insensé s'appelant donc Janus et impliquant une fusée au numéro de série suivant, 000. Sale temps pour l'anxieux Archie qui se demande s'il n'a pas mis le doigt dans quelque chose de plus gros que lui. Et les choses ne s'arrangent pas. Il entend des discussions murmurer autour de lui, ces 3-0 qui semblent le poursuivre de partout. Il croit entendre parler tout bas de Janus dans les couloirs, une organisation crypto-religieuse dont Elon Musk serait le prophète. Un trait d'union entre plusieurs efforts, quelque chose de colossal, qui engloberait le destin de l'humanité, de la Terre, de la galaxie. Archie ne veut pas savoir, il est comme une autruche. Mais les autruches ne volent pas, et elles ne peuvent s'enfuir bien loin. Alors les tranquillisants surnuméraires s'enchaînent, si bien qu'ils commencent à perdre pied. El Correte de Abajo est tenu par Luis Valdez Villarreal, un guatémaltèque bonhomme qui a su vivre son American Dream à lui en débarquant en Californie en 1996 avec Mariana Gordita, sa femme, Diego, son fils handicapé mental, et Perito Pabito, le cholo de la famille. À en croire TripAdvisor, El Correte, comme l'appellent les habitués, est le meilleur restaurant mexicain du comté de Los Angeles. Évidemment, Luis cache sa véritable nationalité à ses clients par souci de crédibilité. Tous les premiers jeudis du mois, c'est ici que les employés du service d'Archie se retrouvent pour déguster de délicieux tamales abondamment arrosés de mezcal. C'est en fin de soirée, alors que le gros des troupes se laisse déjà reconduire au lit par des Tesla en pilotage automatique, que Mac Titania, sévèrement imbibé à l'alcool d'agave, s'approche d'Archie avec un sourire cubiste peint sur le visage. In vino veritas, Mac Titania commence à lui parler de SpaceX, de cette communauté d'hommes et de femmes unis autour d'un projet pour les lendemains plus beaux, pour permettre à l'humanité de quitter son berceau de nourrisson. Il lui dit qu'il est heureux de le compter parmi eux, qu'il a le profil vraiment, le bon profil pour SpaceX, et qu'il ne devrait pas lui en parler mais qu'il va adorer la fusée Triple Zéro, et que son caractère taciturne et peu contraignant va l'emmener loin. Mais Archie ne le souhaite pas. Ce qu'il souhaite, c'est avaler un tranquillisant le plus vite possible et s'échapper d'ici, ce qu'il finit par faire après avoir rendu son tamalé dans un buisson. Le même soir, Archie se met en route pour chez lui, tant bien que mal. Du moins, c'est ce qu'il croit puisqu'il se gourre rapidement de chemin en prenant un mauvais embranchement. Il marche ainsi au milieu des locaux vides des entreprises high-tech les plus en vue pendant ce qui lui semble durer des années, une vingtaine de minutes en réalité, jusqu'à ce qu'un SDF septuagénaire sorte de l'ombre ou d'une poubelle et ne l'interpelle. S'il a plutôt une dégaine à débiter des énigmes, c'est des réponses que le vieillard vêtu de haillons va lui donner. La voix tremblante, pleine de larmes, il lui explique qu'il est un clochard-clochard, c'est-à-dire un clochard qui a perdu son emploi de clochard et qui se retrouve à la rue. Oui, parce qu'ici, en Californie, clochard est un métier comme un autre, ou presque. Il s'agit de participer à un grand réseau secret, une sorte de grille de crasse vivante capable d'acquérir et de faire circuler l'information rapidement, comme un World Wide Web souterrain qui sent la pisse et le vin rouge AOC Santa Lucia. Là-dessous, sous les trottoirs tièdes, dans les tunnels, dans les égouts, sous les ponts, les SDF californiens ne comptent pas leurs heures. Cette fois, Archie ne vomit pas. Il est captivé par le clochard-clochard. Sûrement qu'ils sont tous les deux sur la même longueur d'onde, quelque part au bord d'un gouffre que l'on appelle folie. Le clochard-clochard raconte son histoire. Il travaillait pour Janus. Archie frémit. Le clochard poursuit. Sans qu'il ne sache le but exact de cette organisation, il devait veiller à ce que personne ne mette son pif là où il ne devait pas le mettre. Ce sont ses mots. Rien n'est plus discret qu'un clochard pour surveiller un tunnel. Ils apparaissent dans la ville comme la mousse en forêt et personne ne leur prête attention. Comme on pouvait s'en douter, la vie est dure pour les clochards. Et un jour, il a perdu son emploi sans putain de raison valable. À nouveau, ce sont ses mots. Il a tout perdu. Il avait déjà presque rien. Il a quand même tout perdu. Alors, il noie son chagrin dans la boisson, et comme la colère s'est nagée, il la déverse plutôt autour de lui sous forme de vengeance, en donnant à qui veut bien l'écouter la localisation de l'accès aux locaux du projet Janus, ceux-là même qu'il devait protéger. Autrement dit, il s'attache à faire l'exact opposé de ce qu'on lui demandait de faire auparavant. Une forme de vengeance basique soit, mais efficace. L'information transmise est donc la suivante. Derrière eux, dans un tunnel routier abandonné qui transperce Ascot Hills, se trouve un accès vers un réseau souterrain immense, développé à l'aide des technologies conjointes de l'Hyperloop et de la Boring Company. Il y a ici une ville sous la ville, construite par Elon Musk pour un projet appelé Janus. Info bonus, elle est gardée par des SDF comme lui, équipés de lance-flammes. Dans ce monde complexe où il est plus aisé de se procurer des calmants qu'une Granny Smith sans OGM, dur de faire la part des choses entre faits et fiction. Et depuis cette nuit de déroute, la paranoïa guette gagne un peu plus chaque jour le pauvre Archie. Chaque nuit en fait, puisqu'il ne dort plus du tout depuis 2 semaines, ce qui n'arrange pas sa santé mentale déjà franchement défaillante. Alors c'est sur les coups de 3h du matin qu'Archie décide de se rendre à l'endroit que le clochard-clochard lui a indiqué pour enfin savoir. Non que savoir l'intéresse vraiment, mais dans le cas présent, savoir implique également de pouvoir par la suite dormir, et peut-être même reprendre une vie normale. Le jeu en vaut donc largement la chandelle. Archie arrive face au tunnel de Ascot Hills. N'écoutant que son inconscience, il y pénètre. Commence alors une longue marche labyrinthique dans ce vieux tunnel, offrant en effet un accès vers d'autres tunnels flambant neufs. Ellipse, passons sur le jeu de chat et de la souris entre Archie et les clochards effectivement présents dans ce réseau de tunnels. Animé par sa soif de vérité et les antidépresseurs, Archie parvient finalement jusqu'à une immense structure souterraine. Une foule est tournée vers un écran qui diffuse des images aspirationnelles. Tout le monde est vêtu du même étrange uniforme, savant mélange de la tenue des membres du Ku Klux Klan et de la combi spatiale A7L. Sur scène, enflammé comme un télévangéliste, Mac Titania est entouré d'une escouade de clochards d'élite. Ce n'est pas une keynote, c'est une grand-messe. Archie se dissimule derrière une PLV brandée Janus et ouvre grand ses yeux et ses oreilles. Mac Titania a la voix qui tremble. Il parle de planification, de synergie entre SpaceX, Neuralink, mais aussi The Boring Company et Hyperloop. Il explique qu'enfin, l'humanité va entrer dans une nouvelle ère grâce au projet Janus. Qu'enfin, quelqu'un sera à même de télécharger sa conscience dans une fusée pour explorer l'espace pour toujours. Il chiale carrément. Mesdames et messieurs, la fusée. Et en effet, une fusée marquée 000 descend du plafond pour atterrir sur scène. La foule est en délire. Ce n'est pas une fusée, c'est une rockstar, un messie. Mac Titania se donne plus que jamais. Nos recherches pour trouver le premier homme fusé touchent à leur fin. Nous avons un élu, l'homme parfait pour cette mission. Un héros qui s'ignore. Le premier membre de la nouvelle humanité, faite de titane et d'acier réfractaire. Et alors, sensation étrange, familière, la photo de profil Facebook d'Archie apparaît sur l'écran géant. Il en profite pour tourner de l'œil. Est-ce que tout ceci est arrivé? Est-ce qu'une intelligence informatique peut s'imaginer une vie antérieure humaine? En dépassant Pluton, Archie se dit qu'il regrette un peu ses bras. Mais a-t-il jamais eu des bras? Et qu'est-ce que c'est que d'avoir des bras d'ailleurs? Un homme devenu aveugle se rappelle-t-il des couleurs? Bon Dieu que le soleil est minuscule vu d'ici. Archie a du temps devant lui. Il va pouvoir réfléchir. C'est pour ça qu'il a été téléchargé, non? Pour chercher des réponses et au passage, chercher sa réponse. Et qui sait, elle finira peut-être par arriver un jour après avoir traversé la galaxie. Elle lui sera offerte sur un plateau d'argent par une fusée marquée 001 qui croisera sa route, par hasard, après une éternité de voyage précédant d'autres éternités additionnées à l'infini. Et alors, en se souvenant de son passé d'humain, à présent bien réel, sera-t-il seulement capable de pleurer ?
La petite phrase de fin qui conclut bien là, cette chronique. Pauvre Archie.
Pauvre Archie, ouais. Est-ce que vous avez compris un peu ou pas?
J'ai complètement compris, bravo.
Ouais.
Et j'ai trouvé ça magnifique qu'on ait réussi à esquiver tous les trucs un peu dégueulasses sur le thème poil et que tu commences ta chronique par Archie, la tête dans la cuvette.
En fait, comme je disais un peu en introduction, au moment où j'ai écrit cette chronique, j'étais en train de lire Thomas Pynchon.
Donc ça t'a influencé?
Ça m'a plus qu'influencé parce que je lisais en particulier l'arc-en-ciel de la gravité, peut-être son plus connu. Et en effet, il a cette manière d'écrire avec beaucoup de noms propres qui est un peu complexe, qu'on appelle postmoderniste ou plein d'autres mots. J'ai écrit un peu comme lui avec plein de noms propres, des phrases un peu longues, un peu des Mac Titania, c'est exactement un nom à la Thomas Pynchon. Et surtout, pour lui rendre hommage, dans ce livre-là, il y a aussi une histoire de fusée avec qui est différente, mais qui est avec un numéro de série 000000. J'en ai fait un peu moins parce qu'à l'oral, ça marche moins bien.
Ouais. Et voilà. Janus?
Ah, Janus, c'est le dieu des portes-fenêtres, un truc comme ça chez les rois.
C'est le dieu des portes-fenêtres.
Non, c'est pas exactement ça, mais Janus, c'était juste que c'est le dieu des... Attendez, parce que j'ai écrit cette chronique avant de partir en vacances. Janus, c'est le dieu des passages de portes chez les Romains.
Ah oui, tu m'en parles régulièrement.
Oui, parce qu'en fait, pourquoi j'en parle régulièrement? Parce que c'est fait partie des trois dieux majeurs, je crois, ou quatre dieux majeurs des Romains, et pourtant, on le connaît pas. Pourquoi? Parce que c'est le dieu des passages de portes. Donc je l'ai pas remis de la chronique pour lui rendre hommage, simplement vu que l'idée c'est une sorte de secte qui veut faire passer l'humanité dans un autre cap en le téléchargeant.
Ouais,
je dis Janus quoi.
Mais n'empêche, quand ils ont choisi leur rôle, les dieux ils devaient te voir les boules quoi. Tu seras dieu de la guerre, tu seras dieu
des enfers,
un dieu des enfers, toi dieu des passages de portes. Sérieux les gars? Je pense qu'il était pas là et que c'est pour ça que les absents ont toujours tort quoi.
Bon, Janus, on le fout aux portes.
Au passage de portes qui est encore pire. Ouais,
mais en contrepartie, ce sera un dieu majeur.
C'est ce qu'on va lui dire en tout cas.
Ça. De toute façon, tout le monde l'oubliera dans 1000 ans.
Exactement.
Non, c'était très cool.
Voilà.
J'ai bien aimé les clochards à lance-flammes.
Alors ça, voilà.
ça rejette de ouf, t'empêche quoi.
Ah, donc les lance, du coup, c'est pour ça que je surlignais ce que tu disais, Florian, au début des chroniques. Les lance-flammes. En fait, j'essaie d'utiliser tout ce qu'a fait un peu Elon Musk, pas tout, mais ses différentes entreprises. Ok, il utilise ça pour creuser dessous, faire une ville en dessous avec l'hyperloop.
Mais du coup, celui qui fait les keynotes de Janus,
Mac Titania.
Ouais. D'ailleurs, je croyais que c'était une femme.
C'est
un homme.
Ouais, il s'appelle. Je sais plus quel est son prénom. J'ai déjà oublié.
Mais
Norman Mac Titania.
D'accord. Voilà, mais du coup Elon Musk non, c'est pas lui qui
il est pas là. Non, je voulais volontairement pas le mettre pour le placer au-dessus comme une sorte de dieu absent. Je trouvais ça plus cool quoi.
Lui il est déjà téléchargé quoi,
ou pas non, parce que justement je pense qu'il est encore là mais que le patient test c'est Archie qu'on va envoyer dans la fusée 000. C'est pour ça qu'il est bêta testeur en fait, c'est pas la fusée 0001. Ça se passe bien, il y en aura d'autres. C'est pour ça que Archie, une fois qu'il est téléchargé, il espère croiser d'autres fusées, parce que là il est tout seul, il dérive.
Par contre, ils ont choisi un drôle de candidat, je trouve.
Bah justement, ils ont choisi un peu une victime. C'est ce que je me suis dit, un peu une sorte de victime qui fermait sa gueule, qui serait. Voilà.
Moi, je me suis toujours demandé quand tu télécharges ta conscience comme ça dans un ordinateur ou dans ta fusée.
Classique.
Du coup, classique. Ça arrive tout le temps, tu vois. Tu vas à Monoblade, parfois tu te fais télécharger, bon, ça arrive. Et qu'est-ce que je veux dire? Du coup, t'as une double conscience. On est d'accord. Parce que
il faut tuer le corps.
Oui, voilà, il faut tuer le corps. Sinon, chacun a sa conscience et t'es juste dupliqué, quoi.
Ouais, complètement.
Ouais, ou le corps peut peut-être se mettre en mute.
Mais à ce moment-là, du coup, tu l'as complètement. T'as fait un coupé-collé, quoi. T'as fait un coupé-collé.
Ça devient une sorte de coquille vide de corps, quoi. Mais voilà. Après ça, que j'ai jamais réfléchi, là, encore moins pour ma chronique.
Où est Archie?
Bah Archie, il s'est fait télécharger, je pense qu'ils ont caché le corps dans le tunnel, et puis voilà, là il est Archie.
Il s'est fait manger par des clochards.
Peut-être, non, ils sont gentils les clochards, c'est juste des employés comme les autres.
Numérisation jusqu'au bout du processus.
Et je voulais vous dire un dernier truc avant de passer à autre chose. Je voulais vous dire que la musique que j'ai utilisée, à part la toute dernière, c'est la musique mexicaine, non, c'est tiré d'un film qui s'appelle Under the Silver Lake.
Oui, j'ai failli le regarder.
Que j'ai regardé. Et
qui est pas mal. Ouais.
Bah en fait, je suis allé le voir un peu comme ça, je savais la rigolo. Et il est pinchesque as fuck, comme on dit. C'est du Thomas Pynchon du début à la fin. Et c'est. Parce que c'est à tel point que c'est assumé. Il y a même des trucs qui sont inspirés d'un de ses bouquins qui s'appelle La vente à la criée du lot 49 de Pynchon qui sont repris. À mon avis, c'est vraiment assumé et c'est fait pour. Et du coup, si vous n'êtes pas suffisamment courageux pour lire Pynchon, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, qui est un auteur quand même assez compliqué avec des gros livres souvent, allez voir ce film qui est vraiment cool. Voilà.
Il est sur Canal en ce moment.
Très bien. Placement de produit. Merci Canal, lâchez-nous 500 000 balles.
Et l'humanité retiendra la presque recommandation de Vic qui était « J'ai failli le regarder, je crois que c'est bien.
» Non, finalement, je n'ai pas regardé de film ce soir-là. Mais j'avais lu, ça me semblait pas mal. Ouais.
Très bien. Est-ce qu'on passe à la dernière chronique?
Eh ben,
allez, c'est mon tour.
Celle de Florian. À toi de jouer, Florian.
La vie sur Mars.
Arès 09, pour contrôle mission. L'aigle a atterri. On l'a fait, putain, on l'a fait! La première colonie martienne. Vous devez sûrement vous ronger les ongles devant vos écrans en attendant que la communication arrive jusqu'à la Terre. J'imagine que vous ne savez pas encore si on a atterri ou si on s'est violemment craché sur le sol martien. Alors je vais essayer d'être bref, afin de vous envoyer le télécom au plus vite. 12 mars 2048, jour 1. Après 228 jours de vol, l'équipage de la mission Arès 09 a posé la BFR sur Mars, dans la plaine d'Utopia Planitia, il y a 26 minutes, à 08h34. Tout le monde est exténué, mais en bonne santé. Les premières étapes du programme de colonisation Arès 09 sont en cours de mise en place. Les bâtisseurs, avec l'aide des techniciens, installent la station d'épuration et les panneaux solaires. Les cultivateurs se mettent à creuser le sol pour établir les premiers potagers. Nous vous enverrons les échantillons dès que possible. Nous sommes plutôt en avance sur le planning. Je ne sais pas si c'est dû à l'excitation d'être enfin arrivé sur Mars, ou bien la faible gravité qui nous facilite le travail, mais nous pensons pouvoir poser les premières capsules habitat d'ici quelques jours. On est vraiment pressé de quitter cette big fucking rocket, comme on l'appelle. Contrôle mission. Je me permets de parler au nom de tout l'équipage pour vous dire merci. Merci de nous avoir emmenés ici en toute sécurité. De nous avoir sélectionnés, nous, 150 scientifiques, ingénieurs, médecins, hommes et femmes, parmi des milliers de candidats. D'avoir fait de nous des pionniers. Les premiers êtres humains à coloniser Mars. Jour 54. Les choses avancent bien. Notre colonie ressemble de plus en plus à un petit village. Depuis la construction des habitats, tout le monde a commencé à se détendre, moi y compris. Certainement parce qu'on n'est plus obligé de dormir avec 150 autres personnes. Mais je pense qu'il y a aussi une autre explication. Certes, on a signé pour un voyage à plusieurs millions de kilomètres de la Terre, sans possibilité de retour. On est animé par l'aventure et les découvertes scientifiques. mais on n'avait pas encore pris la mesure de ce que cela voulait vraiment dire. On se rend compte, enfin, qu'on est là pour de bon. Ce voyage, c'est plus qu'une mission. C'est désormais notre vie. On va grandir ici, s'aimer, débattre, s'engueuler, vieillir, peut-être même faire des enfants. D'ailleurs, je crois que Janet plaît à Ivan. C'est vrai qu'elle est plutôt jolie. Ce serait beau, non? Un petit bébé martien. Désolé contre mission, je divague. Il faudrait déjà qu'on finisse de construire le dôme de protection. Les cultivateurs attendent avec impatience l'atmosphère modifiée pour commencer leur plantation. Jour 210. 7 mois déjà. Notre petit village se développe. Les bâtiments poussent de partout. Comme vous l'aviez prévu, notre communauté s'est organisée autour de différents quartiers. Scientifiques, ingénieurs, cultivateurs, mais aussi quartiers de divertissement, avec plusieurs bars et restaurants. On a même un petit cinéma, pour ceux que ça ne dérange pas de regarder de très vieux films de la nouvelle vague. Adrien, le français, est le seul à avoir pensé à en amener. Je dois dire qu'on était tous persuadés que vous auriez prévu le coup. Tout se passe si vite. J'ai l'impression d'être arrivé il y a quelques jours seulement. Pourtant, les champs sont remplis de bons légumes et des arbres fruitiers poussent un peu partout dans la colonie. Les canaux traversent le dôme d'est en ouest et nous apportent de la fraîcheur en journée. L'atmosphère est encore trop fragile pour qu'on puisse complètement enlever nos combinaisons, mais on peut tout de même la quitter quelques heures par jour pour profiter d'un peu d'oxygène pur. Quand on regarde la colonie depuis Utopia Mons, on pourrait presque se croire sur Terre finalement. Certes, ça ressemble à une sorte de festival en plein milieu du désert, mais c'est notre désert, et on essaie de le transformer en véritable petit coin de paradis. Contrôle mission, je crois que Janet et Ivan sont ensemble. Jour 365. Un an. Tout juste. Nous sommes en parfaite autonomie. Nous n'avons désormais plus besoin des ravitaillements. Nous construisons nos propres matériaux, à base de ressources martiennes. Nos réserves de nourriture et d'eau sont pleines. Et notre atmosphère est désormais optimale. Hier, il a plu dans la colonie. Ça fait vraiment bizarre. Le premier contact a été établi avec les colonies Ares 10 et Ares 11. Ils se sont posés à côté de l'Olympus Mons et de Prométhée Terra. À part une légère avarie sur le système de refroidissement de la BFR d'Ares 10, tout avait l'air d'aller. Nous les aiderons au mieux pour qu'ils puissent s'installer rapidement. Contrôle mission. Chez nous, un homme est malade. Les médecins l'ont examiné et rapportent la présence d'un cancer du côlon. Comment est-ce qu'il a pu passer vos tests? Je croyais que vous nous aviez génétiquement stabilisés. On était tous censés être en parfaite santé. J'ai donné l'ordre aux équipes médicales d'examiner tout le monde avant la fin du mois. Bonne nouvelle cependant, Janet est enceinte. Je suis heureux pour elle et Ivan. Contrôle mission, on a un problème. Ah putain, je me ras le cul cette chanson. Encore un délire d'Elon Musk. Bon bref, j'ai d'autres malades ici. Une poignée seulement, mais j'ai peur qu'il y en ait bientôt plus. Et mes scientifiques n'arrivent pas à trouver la raison. On vous a envoyé des échantillons il y a plusieurs mois maintenant. Où ils sont? Où sont mes échantillons? Désolé, je m'emporte. Janet a fait une fausse couche. Elle et Ivan ne sont plus ensemble. Répondez contre une mission, s'il vous plaît. Nous avons besoin des résultats de ces échantillons. Jour 897. Contrôle mission. Nous n'avons plus de nouvelles depuis presque un an. Qu'est-ce qu'il se passe sur Terre? Ares 10 et Ares 11 ne répondent plus non plus. Nous avons essuyé une tempête de sable hier. Le dôme a tenu, mais j'ai bien peur que les autres colonies n'aient pas eu autant de chance. Contrôle mission. Les autres colonies sont tombées. Leur dôme n'a pas résisté. Par chance, personne n'a été blessé. Ils étaient tous retranchés dans leur navette. Après plusieurs allers-retours, tout le monde est sain et sauf sous le dôme d'Ares 09. Je ne sais pas combien de temps nous pourrons nourrir toutes ces bouches. Nos installations sont prévues pour 150 personnes, pas le triple. Il est temps que vous nous répondiez, contrôle. Jour 1058. Putain de musique de merde. Contrôle mission. Vous ne nous répondrez certainement pas. Ça fait bientôt 2 ans qu'on n'a plus de nouvelles. Mais je continuerai d'enregistrer ces notes pour quiconque tombera dessus. On compte de plus en plus de malades dans notre colonie. Cancer de la peau, thyroïde, poumon, tout un tas de merde. Vous nous avez menti, contrôle. Le dôme protège que dalle. Surtout pas des radiations et des tempêtes solaires. Les ingénieurs ont analysé les matériaux, du verre et de l'aluminium. Vous foutez notre gueule? Ça protège à peine de la poussière et des micrométéorites. Qui sait combien de temps nous pourrons tenir dans cette bulle? Janet était malade. Jour 1097. Nous avons détecté une brèche dans le dôme. Des équipes sont parties vers les anciennes colonies Ares 10 et Ares 11 pour récupérer de quoi le réparer, et peut-être même le renforcer. Le blindage des autres navettes pourrait certainement faire l'affaire. Jour 1102. Plus de nouvelles des équipes de recherche. Certainement la poussière qui brouille nos transmissions. J'espère. Jour 1158. On a réparé la brèche comme on a pu. On espère que ça tiendra. Une partie des colons veut rentrer sur Terre. Ils vont tenter de faire décoller les Big Falcon. Mais sans l'aide de la Terre, il y a peu de chances qu'elles arrivent à quitter ne serait-ce que l'atmosphère martienne. Jour 1179. On a perdu près de 40 personnes dans l'explosion de BFR-09. Les autres, ils ont perdu espoir. Je continue de penser qu'on peut s'en sortir. Je ne sais pas comment on va trouver une solution. On va trouver une solution. Je vais trouver une solution. Jour 1202. Nous subissons de lourdes pertes. La maladie emporte la plupart des colons. Nous ne sommes plus qu'une centaine de survivants. 70 survivants. 50. 38. 22. Nous ne sommes plus que 22 dans la colonie. Dans le lot, seuls 5 ou 6 ne sont pas malades. Pour une raison que j'ignore, j'en fais partie. La santé de Janet se dégrade. Je n'ai pas envie qu'elle meure. Je crois que je l'aime. Jour 1289. Nous ne sommes plus que 2. Il n'y a plus de dôme, plus de colonies. Une dernière tempête a eu raison de nos installations, de nos champs, de notre ruisseau. Il ne reste plus rien. Nos rations diminuent de jour en jour. Je ne sais plus quoi faire. Elle crache du sang. Elle bouge quasiment plus. Le fait même de respirer, de vivre, la fait souffrir. J'ai peur. J'ai peur qu'elle s'éteigne. Si elle part, je m'en irai aussi. Contrôle mission, si vous m'entendez, c'est la fin. Arès 09, jour 1289. Nous n'étions pas faits pour cette planète.
C'est fini.
Putain, tu nous as encore foutu une bonne ambiance, bravo. Putain, ça fait 3 ou 4 fois là.
C'est pour ça que je voulais passer en dernier. Et on finit sur une magnifique petite musique. En fait, c'est l'iPhone Mars, chanté par Seoul. Jorge, avec mon magnifique accent espagnol, portugais plutôt même.
Portugais, ouais, non.
Parce que c'est l'iPhone Mars, mais en portugais.
Qu'est-ce que je voulais dire, bravo, grâce à toi, des millions d'éditeurs vont maintenant détester l'iPhone Mars.
Oui, bah oui. En fait, c'est parti du principe qu'effectivement, dans la bagnole, il a mis l'iPhone Mars et Space Oddity en boucle. Ouais. Et du coup, je me suis dit, si jamais il fait partir des personnes sur Mars, il mettrait en boucle, d'une façon ou d'une autre, l'iPhone Mars, certainement pour les transmissions, genre de choses. Mais,
du coup, j'aimais bien ça rend le truc vachement épique, en fait. Et du coup, ouais. On pourrait imaginer qu'Elon Musk soit suffisamment con pour se dire « on va rendre chaque discussion épique. » Genre, tout le monde fait « Allô, Capcom ?» Genre,
c'est ça.
On dirait que le mec, du coup, ça marche assez bien. Oui, les toilettes sont bouchées, il faut nous envoyer.
J'imaginais effectivement que c'était aussi une façon un peu marketing, tu vois, ou genre de choses.
J'ai dû comprendre qu'à partir de la troisième fois, il me fait relancer tout le temps la même chanson. Là. C'est, genre, je comprends pas parce que je pensais que ça allait être des, je sais pas, les réalités parallèles.
Oui, ou pareil, je pensais que c'était ça.
Qu'on allait revivre un truc d'une manière ou d'une autre. Puis en fait, t'avances dans le temps. Je me fais, mais pourquoi? Et puis, je sais pas, au bout de la troisième fois, quoi, je me suis dit, en fait, ça doit être le gars qui est fan. Enfin, pas Elon Musk, j'avais pas pensé, je pensais genre l'opérateur radio ou quoi.
Non, pas du tout. J'ai pensé à Elon Musk et surtout, j'ai pensé qu'il y avait aussi, c'était aussi une façon de faire un petit peu le jour de la marmotte, tu vois. De remettre toujours la même musique, ouais. Et tout, j'aimais bien l'idée.
Je crois que le jour de la marmotte, ce film, il s'appelle jamais le jour de la
marmotte. Non, il s'appelle pas le jour de la marmotte.
Hein, il s'appelle soit en français, il s'appelle le jour sans fin.
Oui, le jour sans
soit
fin.
Soit il s'appelle en anglais The Days of the Hound Dog ou je sais pas quoi là. Mais certainement pas le jour de la marmotte.
Ça, j'aime bien.
Ça n'existe pas.
J'ai une idée.
Ok, formidable. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est quand c'est le moment où le monsieur, il dit. Contrôle mission, je crois que Jeannette et Ivan sortent ensemble parce que je suis presque sûr de les avoir vus dans le couloir après le PS. Ça faisait vraiment comme ça.
Au début, ils sont un peu comme ça. Au début, il est un peu dans ce état d'esprit là.
Oui, mais c'est le côté sortent ensemble. Ouais,
c'est vrai putain, qu'il y a un petit côté collège
écrit,
américain.
Il lui a écrit un mot dans son agenda, quoi. Putain, je suis super jaloux.
Bah, en plus, il était vraiment jaloux parce qu'au fond de lui, il aimait Jeannette.
Il aimait Jeannette.
C'est ça.
D'ailleurs, tu peux nous le faire, la santé. J'ai noté ça aussi. La santé de Jeannette se dégrade.
Et c'est pas facile.
Ça faisait télé-novelas.
Vous pouvez quand même apprécier. Le jeu d'acteur parce que c'est pas facile
comme d'habitude, si un jour on doit faire un film, c'est toi qu'on enverra en acteur.
Merci beaucoup. Sur le podcast Aline et les garçons,
le biopic qui est, c'est prévu là, on peut le dire aux éditeurs, on a vendu les droits à
Christopher Nolan.
Pour rendre très épique justement.
Les micros vont exploser, trucs comme ça. Très bien.
Non, mais c'était cool. Ils ont vécu presque 4 ans.
Oui, en vrai, c'est pas si mal. Ils étaient partis pour plus longtemps que ça.
Bah oui,
la vérité,
ils sont
c'est
quand
que...
même cons en vrai. Les mecs, ils croient les médecins et qu'ils voient pas que c'est peut-être dangereux.
Mais surtout, en fait, ils croient en cette espèce d'utopie qu'on va pouvoir aller sur Mars. Parce que pour l'instant, je suis désolé de vous le dire, mais avec les technologies actuelles, si on y va. C'est pour y crever, ouais. Quoi.
Oui, parce que c'est un va pas. Hein.
Non, mais bien sûr. Hein, il y a certaines personnes qui disent pourquoi pas, on va essayer de construire une petite colonie sur Mars d'ici la fin du siècle, etc.
Non, mais après, ouais. Oui, sans casque, ça va être compliqué. Là, ils enlèvent quand même leur truc et tout. C'est pas
non, mais en fait, tu pourrais très bien si tu as une atmosphère viable sous bulle, etc. Mais le problème, c'est que quoi qu'il arrive, peu importe le dôme que tu mets, etc., je dis beaucoup, etc. peu importe la construction du dôme, tu ne pourras pas empêcher certaines radiations, ouais. Certaines tempêtes solaires, et du coup, il risque d'y avoir beaucoup de problèmes au niveau génétique, et donc du coup des mutations génétiques et de cancer.
Et justement, c'est un article d'Uzbekarika il y a deux articles d'Uzbekarika qui sont sortis. Il y en a un qui parle des mutations génétiques des martiens, des habitants de Mars qui vont changer, qui vont changer à tel point qu'après ils seront plus compatibles avec les terriens. Et un autre truc intéressant, je crois que c'est Uzbekarika aussi, qui disait qu'aujourd'hui toutes les bonnes idées qu'on avait pour construire des abris sur Mars, etc., qui sont soit pas assez développés, mais surtout, ils oublient le principal, c'est qu'il faut un temps de construction, et aujourd'hui, on ne sait pas comment on va faire. Parce que tous ces trucs-là, il faut les construire, et il faut des jours, des semaines, voire des mois, et comment
ce qu'il faudrait, ce serait genre des éléments préfabriqués, tu vois, on envoie des préfas,
des temps de 3 secondes, que je suis hop, tu balances ça par le hublot de la capsule, pouf, t'as pas besoin de le construire. Hein.
Mais dans tous les cas, effectivement, selon le plan d'Elon Musk, parce que c'est quand même notre thème principal, il souhaite envoyer.
Ça devrait être Kishuel.
Il souhaite envoyer une mission, et sauf que la mission ne durerait pas éternellement, elle durerait 900 jours. Mais 900 jours, si des personnes restent sur Mars pendant 900 jours, c'est plus long, les 222
après,
jours,
aller dans ta chronique, retour. Pourquoi Control Mission les a abandonnés et la Terre?
J'ai pas souhaité le divulguer. J'ai préféré.
Je ne le dis pas. Non, je sais, mais je ne le dis pas.
J'ai préféré laisser l'imagination aux éditeurs et à vous.
Je vous le dirai pas. Non, je crois que Janet et Ivan sortent ensemble.
On peut imaginer, tu vois, une catastrophe sur Terre. On peut imaginer ce genre de choses. Tu vois.
J'ai une dernière question.
Oui.
Tu m'as prévu 5 sons, pardon, ouais. Et t'as jamais mis le dernier.
Non, parce que il est pas si intéressant que ça. Tu veux le mettre?
Allez.
Voilà.
C'est ça? Ah oui, on
c'est
fait.
Juste ça.
Et on va quand même le réécouter.
Ah, intéressant. Je pense que ça va tout à fait conclure cette chronique. Merci beaucoup.
Bah de rien.
On passe à la conclusion. Petite virgule?
Petite Allez, virgule. Petite et virgule. On passe surtout à ton quiz, Thomas.
On en parlera après. Ouh. Petite virgule. C'est l'heure du quiz. Et cette fois, c'est moi qui m'y colle pour la toute première fois. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup
c'est
de stress.
Quelque chose.
Un petit peu. J'ai essayé d'être disruptif, de trouver un truc un peu marrant et rigolo. J'ai cherché un truc thématique Elon Musk. J'ai rien trouvé. Du coup, j'ai abandonné. Et je vais plutôt vous faire un quiz tout à fait différent qui sera pas de la vitesse. En fait, vous voyez Google Search, les champs de recherche.
Ouais.
Ça te fait des propositions.
Il faut trouver les...
Voilà. Ah. Ça te fait des propositions. Je vais vous dire le début de phrase. Vous allez chacun faire une proposition, celui qui a une bonne, ou celui, si vous avez chacun une bonne, qui a la plus haute.
Ah, c'est comme dans
c'est une famille en or, non ?
Oui, une famille en or, voilà.
Ils font ça dans une famille en or ?
Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on trouve dans une chambre d'adolescent ? Des chaussettes, oui, pour 20 points.
Ok, c'est famille en or, mais version Google Search. Oh,
okay. C'est ça, exactement.
Ok, donc je vais vous dire...
Donc avec des résultats étonnants.
Avec des résultats étonnants, et si, évidemment, j'ai fait des trucs un peu drôles, et ce sera à vous d'être imaginatif. Et donc, ce sont des vrais résultats Google, ce n'est pas des mensonges, ce n'est pas vulgaire, nous sommes matures, désolé.
Et c'est en direct ou tu as déjà noté les résultats
déjà
Google
J'ai déjà noté.
Mais du coup, ça a pu changer en l'espace d'une soirée ou de deux.
Et on vérifiera.
Tu m'emmerdes.
On en verra le. Tu m'enverras l'épisode à Maître Capello qui vérifiera.
Alors, est-ce que vous voulez des noms d'équipe ou pas? Ouais, on fait des noms d'équipe. C'est mieux les noms d'équipe.
Ok.
Trouvez des noms d'équipe rigolos. Attention, Vic, un nom d'équipe.
Je suis Ellie.
Ellie. Très bien. Un nom d'équipe, Florian.
Kaku.
J'étais sûr que t'allais dire ça.
En plus, moi, c'était pas pour Ellie Kaku. C'était le diminutif d'Elon.
Oui, mais c'est pas
très diminué.
Ok, alors, équipe Ellie versus team Kaku. toujours de la modernité ce podcast. Genre.
Mais ça, c'est vraiment.
C'est Eli Kaku, tout le monde l'a oublié depuis 15 ans. Quoi,
ouais. Mais c'est pas grave, ça lui fait du bien de revivre un peu là.
C'est bien. Bisous Eli, si tu nous regardes de là-haut. Alors, team Eli, team Kaku, vous êtes prêts? Vous pouvez prendre votre temps, simplement votre réponse sera la bonne. Dans le search Google, quand je tape j'aime quand, quels sont les résultats? J'aime quand? Alors, est-ce que je vous mets un petit chrono ou pas?
J'aime quand.
J'aime quand.
Ça va être. Attends, juste alors un petit indice.
Bah non.
C'est un truc dégueulasse.
Plein, j'en ai plein.
J'aime quand il pleut et qu'il fait très chaud.
Ok. Donc il y a vraiment. Tu penses qu'il y a plein de gens qui ont tapé ça sur Google?
Mais en même temps, qui va déclarer sur Google dans la barre de recherche « J'aime quand il fait ça » ou « j'aime
non, non,
quand...
bah si, il y a des trucs, il y a des vrais résultats. »
Eh bah,
ben
moi, j'imagine que ça, okay. j'aime quand
mon mari n'est pas à la maison.
Ok, on va dire que c'est toi qui te rapproches le plus. Parce que la meilleure réponse, c'était « J'aime quand on m'enduit d'huile. »
Ah.
Deuxième réponse, « J'aime quand ça claque. » quatrième réponse, j'aime beaucoup aussi, j'aime quand tu te baisses, t'as tout ce qu'il faut. Je sais pas.
Ça doit être une citation dans le film, genre de choses, non?
Et la toute dernière, justement, j'aime quand un plan se déroule sans accroc, lol. C'était pas vrai qu'il lol. Je sais pas. Très bien. Donc, un point pour l'équipe Ellie 1, je vais le noter parce que je suis beaucoup
plus
chaud.
Il est gentil ton point.
Ouais, mais c'est celui qui se rapproche le plus. D'accord. Et c'est moi le juste. Okay. Deuxième citation Google Search, tu peux dire. Pourquoi ça me démange
au niveau des testicules.
Putain mince.
Je précise exactement.
Et toi?
C'est pourquoi ça?
Pourquoi
ça me fait tout drôle à mes fesses.
Pourquoi ça te fait tout drôle à tes fesses? Très bien.
En fait, tu t'es enfourré dans une phrase, dans un début de
ouais,
phrase.
C'est ça.
Après, t'arrivais plus.
Non, c'est très difficile. Alors, pourquoi ça me fait tout drôle à mes fesses et pourquoi ça me gratte les testicules?
Pourquoi ça me gratte au niveau des testicules?
La bonne réponse, c'était pourquoi ça me gratte les jambes.
Ah.
Ouais. Donc, je pense que j'ai donné le point à l'équipe Kaku.
Ah bah oui.
Ah merci.
L'équipe Kaku. Non, parce qu'en fait, parce que tu parlais de fesses, parce que la troisième réponse, c'était pourquoi ça me brûle quand je fais caca.
Ah. Voilà. C'est une question qu'on peut se poser.
Voilà. Donc bon bref, un point pour l'équipe Yahoo. Ah, la toute dernière réponse, la neuvième, c'était pourquoi ça me gratte entre les jambes. Donc oui, c'est tout à fait mérité.
Ah bah voilà,
bravo équipe Kaku, autant pour moi. Parce que je redécouvre un peu avec vous le quiz, c'est vraiment super. Pourquoi maman?
Pourquoi quoi?
Pourquoi maman?
Pourquoi maman est partie?
Pourquoi maman est partie?
Pourquoi maman envoie des messages tard la nuit?
T'envoies des messages tard la nuit?
Pourquoi maman envoie des messages tard la nuit?
La meilleure réponse était pourquoi maman est dans mon lit.
Quoi?
Oui, absolument. Ah, pourquoi maman est dans mon lit? Et il y avait aussi pourquoi maman crie tout le temps, pourquoi maman ne m'aime pas, etc. Je pense que je ne donne aucun point.
T'as raison.
Il faut savoir dire non parfois. Ok. Il mange
du caca.
Il mange. il mange trop la nuit.
La bonne réponse était il mange du caca et quatrième bonne réponse.
Ah, bravo, tu vois.
Un point pour l'équipe Kaku. Oh, Florian, deux points. Et la meilleure réponse était il mange sa mère.
Il mange sa mère.
Absolument. Et deuxième bonne réponse.
Mais Google a des problèmes avec les mamans, non?
Je sais pas.
Mais de toute façon, c'est toujours crade, hein, genre, on remarque depuis le début là.
J'aime
me gratter les couilles.
Je les ai un peu sélectionnés. Deuxième meilleure réponse était il mange un avion, je sais pas pourquoi.
Mais si, parce qu'il y a un mec qui a mangé un avion.
Ah oui, c'est vrai.
En petit bout. Hein.
Ah ouais oui. Ah bah voilà, c'est ça, il mange
en
un avion.
Tout
en fait, quand t'as du contexte, c'est plus clair, mais il y a aussi il mange quoi les gendarmes? Mais genre avec une faute, il mange singulier. Quoi les gendarmes? Pluriel. Sixième question, avant-dernière. Celle-ci, c'est ma personal favorite. Les Allemands sont.
Ah, les Allemands sont.
Comme ça, on va voir s'ils
sont stricts.
Les Allemands sont stricts, ok.
Les Allemands sont-ils tous nazis?
Ah, la bonne réponse, c'est encore Florian avec équipe Kaku, parce que les Allemands sont froids, on va dire. Il n'y a pas de nazis, non.
Ah, ouais.
Il n'y a pas de nazisme, c'est intéressant.
Ah, ça a dû être.
Par contre, la meilleure réponse, c'était pourquoi les Allemands sont beaux, étonnant. N'est-ce pas? Les Allemands sont venus chez moi aussi, gars.
Allemands sont venus chez moi.
Ouais, ça, je pense que c'est des grands-pères qui tapent. Et donc, il y avait aussi la réponse, je tiens à le préciser, les Allemands sont froids et désagréables. C'est pas moi qui le dis. Merci. Ensuite, dernière.
C'est Google qui dit juste avant qu'est-ce que mange les gendarmes.
Peu importe. Et donc, du coup, malheureusement, équipe Ellie, c'est une défaite, mais on a fait la dernière pour la beauté du geste. Pourquoi papa?
Dans mon lit. Pourquoi papa fait ça à maman? Pourquoi papa est sur maman?
Pourquoi papa est sur maman? Ok.
Pourquoi papa est dans mon lit?
Pourquoi
je suis
papa
sûr
est dans
qu'il y a la version papa de la version maman.
Deuxième meilleure réponse, c'était pourquoi papa couche avec moi? On va dire que c'est toi qui as le point.
C'est
bravo.
Vrai.
Ouais,
pourquoi
ouais.
papa couche,
couche
avec moi?
Couche avec moi, c'est différent de pourquoi papa dort avec
mais
moi.
Je,
tu vois,
mais je pense que c'est des trucs de, c'est pas des trucs de site de gouvernement ou de trucs qui t'expliquent qu'il faut pas que ça se passe.
Je sais pas, peut-être. Il y avait aussi une autre réponse qui était pourquoi papa tape maman. Bon, ok. Pourquoi papa ne voit les rouges, rien à voir. Bon. Intéressant.
Moi, j'aime bien l'idée que ce soit Google qui se pose lui-même ces questions-là.
Non,
c'est des suggestions de Google, hein, après tout.
En fait, il y a aussi une faille dans ce truc-là, mais heureusement, c'est pas le cas. C'était pas mes suggestions à moi avant. Est-ce que je veux dire, parce que parfois Google te ressort des trucs que t'as pu taper, et je suis étonné qu'il n'y ait pas un de vous qui lâchait la vanne. Mais bon.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on n'est pas assez connecté technologiquement.
C'est bien.
Supérieur.
Du coup, voilà, bon, bravo équipe Kaku.
Bravo Kaku.
Bravo Kaku. Ça te fait quoi,
Victoire?
Ça te fait quoi?
Moi, ça me fait vraiment rien.
Et bah, formidable.
Tu bah, en même temps, ta première victoire, c'est la deuxième fois que tu participes. Donc, c'est pas mal.
C'est vrai, mais c'est pas si mal. C'est,
bah, c'est bien.
Ça te fait en termes de ratio, je suis meilleur que toi.
Ah bah oui.
Je peux choisir la musique.
Tu peux choisir la musique. Tu veux écouter quoi?
Bah, je vais réécouter Monsieur Georges qui chante Life on Mars en portugais.
Très bien. Et on va se dire au revoir.
C'est la quatrième.
Et on va en profiter pour se dire au revoir sur ces notes de portugais.
Tout à fait. Et on va en profiter pour dire qu'il faut liker, qu'il faut partager. C'est très important. Parce qu'on vous aime, on aime quand vous êtes là, quand vous nous écoutez. Et plus vous êtes nombreux, plus on vous aime. Voilà, c'est du chantage, c'est comme ça.
Et vous êtes de plus en plus nombreux, donc n'oubliez pas d'en parler autour de vous. Merci beaucoup, à dans deux semaines.
Bisous, bisous.
Bisous.
Deux semaines déjà.
Não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós. Tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul. Pode ter vida em Marte, então vem cá, me dá sua língua. Então vem, eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol. Minha medida, então vem, vamos viver a vida. Então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars.
Finito. Oh merde. Oh merde, j'ai tout relancé. Bisous. Girl with a mousy hair, but her mummy is yet.